Chapitre 7. Le ministère de la magie. Le lendemain matin, Harry se réveilla à 5h30 aussi brusquement et aussi complètement que si quelqu'un avait crié dans son oreille. Pendant quelques instants, il resta étendu, immobile, tandis que la pensée de l'audience qu'il attendait au ministère imprégnait chaque particule de son cerveau. Incapable d'en supporter davantage, il se leva d'un bond et mit ses lunettes. Mrs. Weasley avait disposé au pied du lit son jean et son t-shirt fraîchement lavés. Harry s'habilla avec des gestes fébriles. La toile vide accrochée au mur ricana. Ron était étalé sur le dos, la bouche grande ouverte, plongé dans un profond sommeil. Il ne bougea pas lorsque Harry traversa la pièce, sortit sur le palier et referma la porte en douceur. Essayant de ne pas penser que la prochaine fois où ils se verraient, ils auraient peut-être cessé d'être des camarades de classe. Harry descendit l'escalier en silence, passa devant les têtes coupées des ancêtres de créatures et se dirigea vers la cuisine. Il croyait qu'elle serait vide à cette heure-là, mais lorsqu'il arriva devant la porte, il entendit de l'autre côté le ronronnement sourd d'une conversation. En entrant, il vit Monsieur et Mrs. Weasley, Sirius, Lupin et Tonk assis autour de la table. On aurait presque dit qu'ils l'attendaient. Ils étaient tous habillés de pied en cap, sauf Mrs. Weasley qui portait une robe de chambre, violette, matelassée. Dès qu'elle vit Harry, elle se leva d'un bond. « Petit déjeuner !» dit-elle en se précipitant vers la cheminée, sa baguette magique à la main.
« Bonjour Harry !» dit-on en bâillant.
Ce matin-là, ses cheveux étaient blonds et bouclés.
« Bien dormi ?»«
Oui, » répondit Harry.
Je suis restée debout toute la nuit,
dit-elle avec un nouveau bâillement qui la fit frissonner.
Ah, viens t'asseoir.
Elle tira une chaise en renversant celle qui se trouvait juste à côté.
Qu'est-ce que tu veux, Harry? S'enquit Mrs. Weasley. Du porridge? Des petits pains? Des harengs? Des œufs au lard? Des toasts?
Oh, simplement des toasts, merci, dit-il. Lupin lui jeta un coup d'œil, puis demanda à Tonk.
« Qu'est-ce que tu disais à propos de Scrimgeour ?»«
Ah oui, eh bien il faut que nous fassions un peu plus attention. Il nous a posé de drôles de questions à Kingsley et à moi. »
Harry éprouva une vague reconnaissance en voyant qu'il ne lui demandait pas de se joindre à la conversation. Ses entrailles étaient comme nouées. Mrs. Weasley posa devant lui deux toasts à la marmelade. Il essaya de manger, mais il avait l'impression de mâcher un morceau de tapis. Mrs. Weasley s'assit alors à côté de lui et se mit à arranger son t-shirt, rentrant l'étiquette qui dépassait dans le cou, lissant les plis du tissu sur ses épaules. Il aurait préféré qu'elle le laisse tranquille.
« Et il faudra que je dise à Dumbledore que je ne pourrai pas assurer le service de nuit demain soir. Je suis vraiment trop fatiguée. »
acheva Tonk en bâillant de plus en plus largement.
« Je te remplacerai, » répondit Monsieur Weasley. « De toute façon, j'ai un rapport à finir. »
Monsieur Weasley était vêtu non pas d'une robe de sorcier, mais d'un pantalon à rayures et d'un vieux blouson. Il se tourna vers Harry.
« Comment te sens-tu ? »
Harry haussa les épaules.
« Ce sera bientôt terminé, » assura Monsieur Weasley, d'un ton confiant. « Dans quelques heures, tu seras innocenté. »
Harry resta silencieux.
« L'audience aura lieu à mon étage, dans le bureau d'Amelia Bones. Elle dirige le département de la justice magique, et c'est elle qui t'interrogera. »
« On peut faire confiance à Amelia Bones, Harry, »
dit Tonk d'un air sérieux.
« Elle est impartiale. Elle écoutera tes arguments. »
Harry acquiesça d'un signe de tête, toujours incapable de parler.
« Il ne faudra surtout pas t'énerver, » dit brusquement Sirius. « Sois très poli avec eux et tiens-t'en au fait. »
Harry hocha à nouveau la tête.
« La loi est de ton côté, » dit Lupin à voix basse. Même les sorciers qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité ont le droit de recourir à la magie lorsque leur vie est menacée.
Harry sentit soudain sa nuque se glacer comme si quelque chose de très froid lui coulait dans le dos. Pendant un instant, il pensa qu'on lui avait jeté un sortilège de désillusion, puis il comprit que Mrs. Weasley s'était attaquée à ses cheveux avec un peigne mouillé qu'elle appuya vigoureusement sur le sommet de son crâne.
Tes cheveux ne s'aplatissent donc jamais ?
Demanda-t-elle d'un ton désespéré. Harry fit non de la tête. Monsieur Weasley consulta sa montre et leva les yeux vers lui.
« Il est temps d'y aller, » dit-il. Nous sommes un peu en avance, mais je crois que tu seras mieux au ministère qu'à traîner ici.
« D'accord, » répondit machinalement Harry. Il laissa tomber son toast et se leva.
« Ça se passera bien, Harry, »
dit-on en lui tapotant le bras.
« Bonne chance, » ajouta Lupin. « Je suis sûr que tout ira à merveille. »
« Et si ce n'est pas le cas, » dit Sirius d'un air sinistre, « je m'occuperai d'Amelia Bones pour toi. »
Harry eut un pâle sourire. Mrs. Weasley le serra contre elle.
« On croise les doigts, » dit-elle.
« Merci, » dit Harry. « Bon, ben, alors, à plus tard. » Il suivit M. Weasley dans le hall. Derrière ses rideaux, la mère de Sirius grognait dans son sommeil. M. Weasley ouvrit la porte et ils sortirent dans l'aube froide et grise.
« D'habitude, vous n'allez pas au bureau à pied, »
demanda Harry, tandis qu'il contournait la place d'un pas vif.
« Ah non, 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 je transplane, » répondit M. Weasley. « Mais c'était impossible, et je crois préférable que nous arrivions de la manière la moins magique qui soit. Ça fera une meilleure impression compte tenu de ce qui t'est reproché. »
M. Weasley gardait la main à l'intérieur de son blouson, et Harry savait qu'il tenait fermement sa baguette magique. Les rues délabrées du quartier étaient presque désertes, mais lorsqu'ils arrivèrent à la station de métro, tout aussi misérable, elle était bondée de voyageurs matinaux en route pour leur travail.
Comme chaque fois qu'ils se trouvaient en compagnie de moldus, occupés à leurs tâches quotidiennes, M. Weasley eut du mal à modérer son enthousiasme. « Oh, c'est tout simplement fabuleux »
murmura-t-il, en montrant les distributeurs automatiques de tickets.
« Merveilleusement ingénieux !»«
Ils sont hors d'usage, » fit remarquer Harry, qui lui montra l'écriteau.
« Ah oui, mais même !»
répondit M. Weasley en regardant les machines d'un air ému. Ils achetèrent leurs tickets à un employé somnolent. Harry se chargea de la transaction car M. Weasley ne savait pas très bien se servir de l'argent moldu. Et 5 minutes plus tard, il montait à bord d'une rame qui les emmena dans un grand bruit de ferraille vers le centre de Londres. M. Weasley ne cessait de regarder le plan du métro affiché au-dessus de la fenêtre.
« Encore 4 stations, Harry! Encore 3! Plus que 2 stations, Harry !»
Ils sortirent de la rame en plein cœur de Londres et furent emportés par une vague d'hommes en costume et de femmes en tailleur qui avaient tous un attaché-caisse à la main. Ils montèrent l'escalier mécanique, franchirent le portillon de la sortie, M. Weasley fut émerveillé de voir le tourniquet avaler son ticket, et se retrouvèrent dans une avenue bordée d'immeubles imposants et déjà encombrée de voitures.
« Et où sommes-nous ? » demanda M. Weasley d'un air perplexe.
Pendant un instant, Harry craignit qu'il se soit trompé de station, bien que M. Weasley n'eût cessé de consulter le plan.
« Ah oui, c'est par là !»
dit-il enfin quelques secondes plus tard. Et il l'entraîna vers une rue adjacente.
« Désolé, » ajouta-t-il, « je viens jamais en métro et les choses paraissent différentes quand on les voit à la façon d'un moldu. En fait, c'est la première fois que je passe par l'entrée des visiteurs. »
Plus ils avançaient, moins les immeubles paraissaient imposants. Enfin, ils atteignirent une rue où s'alignaient des bureaux d'aspect plutôt miteux, un pub et une benne à ordures qui débordaient de toutes parts. Harry avait pensé que le ministère de la magie serait installé dans un quartier plus prestigieux.
« Nous y sommes !» dit M. Weasley d'une voix claironnante.
Il montra une vieille cabine téléphonique rouge aux vitres cassées plantée devant un mur surchargé de graffitis.
« Après toi, Harry !» dit-il en ouvrant la porte de la cabine.
Harry entra à l'intérieur en se demandant ce que tout cela signifiait. M. Weasley se faufila derrière lui et referma la porte. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Harry se retrouva coincé contre l'appareil téléphonique qui pendait de travers, comme si un vandale avait essayé de l'arracher. M. Weasley passa la main devant Harry pour prendre le combiné.
« Monsieur Weasley, je crois que le téléphone aussi est hors d'usage, » dit Harry.
« Non, je suis sûr qu'il marche très bien, »
répondit M. Weasley en tenant le combiné au-dessus de sa tête, le regard fixé sur le cadran circulaire du téléphone.
« 6, » composa le chiffre, « 2, 4, encore un 4 et un autre 2. »
Lorsque le cadran se remit en place dans un chuintement, une voix féminine froide et distante s'éleva dans la cabine. Elle ne venait pas du combiné que M. Weasley tenait à la main, mais résonnait aussi clairement que si une femme invisible s'était trouvée à côté d'eux.
« Bienvenue au ministère de la magie. Veuillez indiquer votre nom et l'objet de votre visite. »
« dit M. Weasley, qui ne savait visiblement pas s'il devait ou non parler dans le combiné.
Il adopta un compromis en collant le micro contre son oreille.
Ici, Arthur Weasley, service des détournements de l'artisanat moldu. J'accompagne Harry Potter qui a été convoqué à une audience disciplinaire.
« Merci, »
dit la voix féminine, toujours aussi réfrigérante.
« Le visiteur est prié de prendre le badge et de l'attacher bien en vue sur sa robe. »
Il y eut un déclic, suivi d'un grincement, et Harry vit quelque chose tomber dans le réceptacle de métal destiné à rendre les pièces inutilisées. Il ramassa l'objet. C'était un badge carré, en argent, qui portait la mention « Harry Potter, audience disciplinaire ». Il l'épingla sur son t-shirt, tandis que la voix féminine s'élevait à nouveau.
« Le visiteur est prié de se soumettre à une fouille et de présenter sa baguette magique pour enregistrement au comptoir de la sécurité situé au fond de l'atrium. »
Le plancher de la cabine téléphonique se mit alors à vibrer et Harry s'aperçut qu'ils étaient en train de descendre lentement dans le sol. Il regarda avec appréhension le trottoir passer devant les vitres de la cabine jusqu'à ce que l'obscurité se referme au-dessus de leur tête. Il ne pouvait plus rien voir à présent. Il entendait seulement un grondement sourd pendant que la cabine s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. Au bout d'environ une minute, bien que Harry eût l'impression qu'un temps beaucoup plus long s'était écoulé, un ray de lumière dorée tomba sur ses pieds et s'élargit jusqu'à éclairer tout son corps. Lorsque le rayon illumina son visage, il dut battre des paupières pour empêcher les larmes de lui monter aux yeux.
« Le ministère de la magie vous souhaite une bonne journée, »
dit la voix. La porte s'ouvrit à la volée, et M. Wesley sortit de la cabine suivi par Harry qui resta bouche bée. Il se trouvait à l'extrémité d'un hall gigantesque et somptueux, dont le parquet de bois foncé était ciré à la perfection. Le plafond, d'un bleu semblable aux plumes d'un paon, était incrusté de symboles dorés et brillants qui ne cessaient de bouger et de se transformer comme un immense tableau d'affichage céleste. De chaque côté, des lambris de bois sombre et luisant recouvraient les murs dans lesquels étaient aménagées de nombreuses cheminées aux manteaux dorés. Régulièrement, une sorcière ou un sorcier émergeait dans un bruissement discret d'une des cheminées situées sur la gauche. À droite, de courtes files se formaient devant chaque feu de bois dans l'attente d'un départ. Au milieu du hall s'élevait une fontaine. Des statues d'or plus grandes que nature occupaient le centre d'un bassin circulaire. La plus haute de toutes représentait un sorcier de noble apparence, sa baguette magique pointée vers le ciel. Il était entouré d'une sorcière d'une grande beauté, d'un centaure, d'un gobelin et d'un elfe de maison. Ces trois derniers contemplaient les deux humains avec adoration. Des jets d'eau étincelants jaillissaient des baguettes magiques du sorcier et de la sorcière, de la flèche du centaure, du chapeau pointu du gobelin et des deux oreilles de l'elfe de maison. L'eau qui retombait dans le bassin produisait un clapotis régulier qui se mêlait au craquement brusque des transplaneurs et au martèlement des pas de centaines de personnes qui se dirigeaient vers deux grandes portes d'or à l'autre bout du hall. La plupart des visages affichaient une expression maussade due sans doute à l'heure matinale. « Par ici !» dit M. Wesley. Ils se mêlèrent à la foule, se frayant un chemin parmi les employés du ministère dont certains portaient des piles de parchemins en équilibre précaire ou des attachés-caisses cabossés tandis que d'autres traversaient le hall en lisant la gazette du sorcier. Lorsqu'il passa devant la fontaine, Harry vit des noises et des mornilles briller au fond du bassin. À côté, un petit écriteau noirci précisait « Les sommes récoltées dans la fontaine de la fraternité magique seront intégralement versées à l'hôpital Sainte-Mangouste. »
« Si je ne suis pas renvoyé de Poudlard, j'y mettrai 10 galions, » pensa Harry dans une promesse désespérée.
« C'est par là !» dit M. Wesley. Ils quittèrent le flot des employés qui se dirigeaient vers les portes d'or. À gauche, sous une pancarte qui indiquait « Sécurité », un sorcier mal rasé, vêtu d'une robe bleue comme des plumes de paon, était assis derrière un bureau. En les voyant approcher, il leva les yeux et posa la gazette du sorcier qu'il était en train de lire.
« J'accompagne un visiteur, » dit M. Wesley en désignant Harry d'un geste.
« Approchez-vous, » répondit le sorcier d'une voix lasse.
Harry s'avança d'un pas. Le sorcier prit alors une longue tige dorée, mince et souple comme l'antenne radio d'une voiture, et la lui passa sur le corps de haut en bas, d'avant en arrière.
« Baguette magique !» grommela le sorcier vigile en tendant la main après avoir posé sa tige d'or.
Harry lui donna sa baguette. Le sorcier la plaça sur un étrange instrument de cuivre en forme de balance, à un seul plateau. L'appareil se mit à vibrer et une étroite bande de parchemin sortit d'une fente aménagée à sa base.
« 27 centimètres et demi, plume de phénix en usage depuis 4 ans, c'est bien cela ?»«
Oui, » répondit Harry d'un ton nerveux.
« Je garde ceci, »
dit le sorcier qui empala le morceau de parchemin sur une petite pointe de cuivre.
« Je vous rends ça, »
ajouta-t-il en tendant à Harry sa baguette magique. « Merci. »«
Attendez un peu, » reprit le sorcier d'une voix lente.
Il examina le badge argenté que Harry avait épinglé sur sa poitrine, puis regarda aussitôt son front.
« Merci, Eric, »
dit alors M. Wesley d'une voix ferme. Il prit Harry par l'épaule et le ramena dans le flot des sorciers et des sorcières qui franchissaient les portes d'or. Légèrement bousculé par la foule, Harry suivit M. Wesley de l'autre côté des portes qui menaient à un hall plus petit où une vingtaine d'ascenseurs s'alignaient derrière des grilles d'or ouvragées. Harry et M. Wesley se mêlèrent au groupe qui attendait devant l'un d'eux. À côté, un grand sorcier barbu tenait une grande boîte en carton d'où s'élevaient des crissements.
« Ça va, Arthur ?»
lança le sorcier en adressant un signe de tête à M. Wesley. « Qu'est-ce que tu as là, Bob ?» demanda M. Wesley qui regardait la boîte.
« Nous ne savons pas très bien, »
répondit le sorcier d'un air grave.
« Nous pensions qu'il s'agissait d'un poulet parfaitement ordinaire, et là-dessus, il s'est mis à cracher du feu. À mon avis, c'est un cas très sérieux d'infraction à l'interdiction d'élevage expérimental. »
Dans un bruit de ferraille, un ascenseur s'arrêta devant eux, la grille d'or écoulissa, et M. Wesley entra avec Harry dans la cabine. Les autres s'y engouffrèrent également, et Harry se retrouva poussé tout au fond, coincé contre la cloison. Plusieurs sorcières et sorciers l'observaient avec curiosité. Il contempla ses chaussures pour éviter de croiser leurs regards et aplatit sa frange sur son front. La grille se referma avec bruit et l'ascenseur monta lentement dans un cliquetis de chaîne. La même voix féminine que Harry avait entendue dans la cabine téléphonique s'éleva à nouveau.
Niveau 7, département des jeux et sports magiques, siège des ligues britanniques et irlandaises de Quidditch, club officiel de Bavboul, bureau des brevets saugrenus.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Harry aperçut un couloir d'une propreté douteuse avec des affiches représentant différentes équipes de Quidditch collées de travers sur les murs. L'un des sorciers, les bras chargés de balais, se faufila avec difficulté hors de la cabine et disparut dans le couloir. Les portes se refermèrent. L'ascenseur repartit en tremblotant et la voix féminine annonça
« Niveau 6, département des transports magiques, régie autonome des transports par cheminée, service de régulation des balais, office des portes au loin, centre d'essai de transplanage. »
Les portes s'ouvrirent une nouvelle fois et 4 ou 5 sorcières sortirent en compagnie d'un sorcier. En même temps, plusieurs avions en papier s'engouffrèrent dans la cabine. Harry les regarda voleter paresseusement au-dessus de sa tête. Ils étaient d'une couleur violette plutôt claire et portaient les mots « ministère de la magie » inscrits sur leurs ailes.
« Ce sont de simples notes de service qu'on s'envoie d'un bureau à l'autre, »
expliqua M. Wesley à voix basse. « Avant, on utilisait des hiboux, mais ils étaient d'une saleté incroyable.
Il y avait des fientes partout. »
Tandis qu'ils poursuivaient leur ascension dans un cliquetis métallique, les notes de service tournoyèrent en battant des ailes autour de la lampe qui se balançait au plafond de la cabine.
Niveau 5, département de la coopération magique internationale, organisation internationale du commerce magique, bureau international des lois magiques, confédération internationale des sorciers, section britannique.
Lorsque les portes s'ouvrirent, 2 notes de service s'envolèrent de l'ascenseur d'où sortirent également quelques sorcières et sorciers. Mais d'autres avions en papier s'engouffrèrent en si grand nombre que la lumière de la lampe s'obscurcissait par instants, masquée par leur vol incessant.
Niveau 4, département de contrôle et de régulation des créatures magiques, section des animaux, être et esprit, bureau de liaison des gobelins, agence de conseil contre les nuisibles.
Excusez, dit le sorcier qui portait la boîte contenant le poulet cracheur de feu. Il sortit de la cabine, suivi d'un essaim de notes de service. Les portes se refermèrent avec un bruit métallique.
Niveau 3, département des accidents et catastrophes magiques, brigade de réparation des accidents de sorcellerie, quartier général des oubliators, comité des inventions d'excuses à l'usage des moldus.
À cet étage, tout le monde descendit, à l'exception de M. Wesley, de Harry et d'une sorcière occupée à lire un très long parchemin qui traînait par terre. Les notes de service restées à l'intérieur continuèrent de voler autour de la lampe, tandis que l'ascenseur repartait en brinque-ballant. À l'ouverture des portes, la voix annonça
« Niveau 2, département de la justice magique, service des usages abusifs de la magie, quartier général des aurores, service administratif du Magen Magot. »
« C'est la condescend, Harry, »
dit M. Wesley. Ils suivirent la sorcière hors de la cabine et longèrent un couloir dans lequel des portes s'alignaient de chaque côté.
« Mon bureau est à l'autre bout. »
« M. Wesley, » dit Harry alors qu'il passait devant une fenêtre inondée de soleil,
Nous ne sommes donc plus sous terre ?
Ah si, si, répondit M. Wesley, ce sont des fenêtres enchantées. La maintenance magique décide chaque jour du temps qu'il fera. La dernière fois qu'ils ont demandé une augmentation de salaire, nous avons eu 2 mois d'ouragan. C'est là-bas, Harry.
Ils tournèrent au coin d'un autre couloir, franchirent une double porte de chêne et arrivèrent dans une vaste salle en désordre divisée en boxes. L'endroit bourdonnait de rires et de conversations, et des notes volantes se croisaient en tous sens d'un box à l'autre, comme des fusées miniatures. Accroché de travers, un écriteau indiquait « Quartier général des aurores ». Harry jeta au passage des regards furtifs à l'intérieur des boxes. Les aurores avaient recouvert les cloisons de leur bureau d'un mélange hétéroclite de portraits de sorciers recherchés, de photos de famille, d'affiches de leurs équipes de Quidditch préférées ou d'articles découpés dans la Gazette du sorcier. Un homme, vêtu d'une robe écarlate, les cheveux coiffés en un catogan plus long que celui de Bill, était assis, les pieds sur son bureau, et dictait un rapport à sa plume. Un peu plus loin, une sorcière, un œil caché sous un bandeau, parlait à Kingsley Shacklebolt par-dessus la cloison de son box.
« Bonjour, Wesley !»
dit Kingsley d'un ton dégagé en les voyant approcher.
« J'aurais voulu vous dire un mot, vous avez une seconde.
»« Oui, si c'est vraiment une seconde, » répondit Monsieur Wesley. « Je suis assez pressé. »
Ils se parlaient comme s'ils se connaissaient à peine, et lorsque Harry ouvrit la bouche pour dire bonjour à Kingsley, Monsieur Wesley lui marcha sur le pied pour le faire taire. Ils suivirent Shacklebolt jusqu'au dernier box de la rangée. Harry ressentit alors un léger choc. De tous côtés, le visage de Sirius lui clignait de l'œil. Des coupures de presse et de vieilles photos, y compris celles où Sirius était garçon d'honneur au mariage de ses parents, s'étalaient sur les murs. Le seul endroit où Sirius n'apparaissait pas était occupé par une carte du monde sur laquelle de petites épingles rouges luisaient comme des joyaux.
« Voilà !» dit Kingsley
d'un ton brusque en mettant dans la main de M. Wesley une liasse de parchemin.
« J'ai besoin de toutes les informations possibles sur les véhicules volants d'origine moldue qui ont été vus dans les 12 derniers mois. D'après nos renseignements, il se pourrait que Black utilise toujours sa vieille motocyclette. »
Kingsley lança à Harry un clin d'œil très appuyé, puis ajouta dans un murmure.
« Donne-lui le magazine, ça pourrait l'intéresser. »
Il reprit alors d'une voix normale
« Et ne traînez pas trop, Wesley, le retard de votre rapport sur les larmes à feu a bloqué notre enquête pendant 1 mois entier. »
« Si vous aviez lu ce rapport, vous sauriez que le terme exact est « arme à feu », répliqua Wesley avec froideur. « Et j'ai bien peur que vous ayez à attendre les informations sur les motocyclettes un certain temps. Nous sommes très occupés en ce moment. »
Baissant la voix, il ajouta « Si tu peux te libérer avant 7 heures, Molly va préparer des boulettes pour le dîner. » Il fit signe à Harry de le suivre et l'emmena jusqu'à une autre porte de chêne qui donnait sur un nouveau passage. Il tourna à gauche, longea un couloir, tourna à droite, dans un corridor miteux et sombre, puis atteignit enfin un cul-de-sac où une porte entr'ouverte laissait voir sur la gauche un placard à balai, tandis que, sur la porte de droite, une plaque de cuivre ternie indiquait « Service des détournements de l'artisanat moldu ». Le misérable bureau de M. Wesley semblait légèrement plus petit que le placard à balai. On avait réussi à y coincer 2 tables, entre lesquelles il était difficile de se faufiler, en raison des armoires pleines à craquer qui s'alignaient le long des murs et sur lesquelles des piles de dossiers vacillaient dangereusement. Le seul espace encore disponible, sur l'une des cloisons, témoignait des obsessions de M. Wesley. Il y avait accroché des affiches de voitures, dont l'une montrait un moteur démonté, 2 images de boîtes aux lettres, sans doute découpées dans un livre pour enfants moldu, et un schéma indiquant comment installer une prise de courant. Sur la corbeille, où s'accumulait le travail en attente, était posé côte à côte un vieux toaster secoué de hoquets déchirants et une paire de gants en cuir qui se tournaient les pouces. À côté de la corbeille, Harry vit une photographie de la famille Wesley. Il remarqua que Percy en était sorti.
« Nous n'avons pas de fenêtre !»
s'excusa M. Wesley en enlevant son blouson qu'il suspendit au dossier d'une chaise.
« Nous en avons demandé une, mais apparemment, il pense que nous n'en avons pas besoin. Assieds-toi, Harry. Je ne crois pas que Perkins soit déjà arrivé. »
Harry se glissa sur une chaise derrière le bureau de Perkins, tandis que M. Wesley examinait la liasse de parchemin que Kingsley Shacklebolt lui avait confiée.
« Ah !»
dit-il avec un sourire en découvrant au milieu un exemplaire d'une revue intitulée « Le Chicaneur ».
« Voyons !»
Il feuilleta le magazine.
« Oui, oui, il a raison. Je suis sûr que Sirius trouvera ça très amusant. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça encore ?
Une note volante qui venait de surgir dans le bureau alla se poser dans un battement d'ailes sur le toaster qui continuait de hoqueter. M. Wesley déplia le papier et lut à haute voix. « Troisième cas de toilette publique régurgitante signalé à Bethnal Green. Veuillez mener l'enquête sans délai.
Oh, » ça devient ridicule. « Des toilettes régurgitantes ?»«
Oui, l'acte de farceur anti-moldu, » expliqua M. Wesley, les sourcils froncés.
« Nous en avons déjà eu deux la semaine dernière. Un à Wimbledon, l'autre à Elephant and Castle. » Les moldus tirent la chasse d'eau et au lieu que tout disparaisse, enfin, je te laisse imaginer, les malheureux n'arrêtent pas d'appeler les plumiers. C'est comme ça qu'on dit, non, je crois, non? Tu sais, ces gens qui réparent les tuyaux, les plombiers? C'est ça! Mais bien entendu, ils ne comprennent pas ce qui se passe. J'espère qu'on va retrouver les coupables.
Ce sont des aurores qui vont les attraper?
Oh, non, 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 ce n'est pas assez important pour les aurores, non. Non, ça regarde la brigade magique. Ah, Harry, je te présente Perkins.
Un vieux sorcier, au dos voûté, l'air timide, les cheveux blancs et ébouriffés, entra dans la pièce, le souffle court.
« Ah, Arthur !» dit-il d'une voix fébrile sans regarder Harry. « Dieu merci, je ne savais plus ce qu'il convenait de faire. Vous attendre ici ou pas? Je viens d'envoyer un hibou chez vous, mais de toute évidence, il vous a raté. Un message urgent est arrivé il y a 10 minutes. »
« Les toilettes régurgitantes, je sais, je suis déjà au courant, » répondit M. Wesley.
« Oh non, 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 il ne s'agit pas de ça. C'est au sujet de la convocation du jeune Potter. Ils ont modifié l'heure et le lieu. Maintenant, l'audience doit commencer à 8 heures dans la vieille salle numéro 10. »«
Dans la vieille ? Mais il m'avait dit, par la barbe de Merlin !» M. Wesley consulta sa montre, poussa une exclamation et se leva d'un bond. « Vite, Harry, on aurait dû y être il y a déjà 5 minutes !» Perkins se plaqua contre une armoire pour laisser passer M. Wesley qui sortit du bureau en courant, Harry sur ses talons. « Pourquoi ont-ils changé l'heure ?» demanda Harry d'une voix haletante tandis qu'il traversait au pas de course la salle des aurores.
Des têtes apparurent au-dessus des cloisons et les regardèrent passer d'un air surpris. Harry avait l'impression d'avoir laissé ses entrailles derrière le bureau de Perkins.
« Je n'en ai aucune idée, mais c'est une chance que nous soyons arrivés de bonne heure. Si tu n'avais pas été présent à l'audience, c'était une catastrophe !»
M. Wesley s'arrêta dans une glissade devant les ascenseurs et pressa d'un geste impatient le bouton de la descente.
« Allez, vite !»
L'ascenseur apparut enfin dans son habituel bruit de ferraille et ils se ruèrent à l'intérieur. Chaque fois que la cabine s'arrêtait, M. Wesley lançait des jurons furieux et écrasait le bouton du niveau 9.
« Il y a des années que ces anciennes salles d'audience n'ont plus été utilisées !» dit-il avec colère. « Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire ça là-bas. À moins que... Mais non !»
À cet instant, une petite sorcière replète, qui tenait à la main un gobelet fumant, entra dans l'ascenseur, et M. Wesley s'interrompit.
« Atrium !»
annonça la voix féminine. Les grilles s'ouvrirent, et Harry aperçut à nouveau les statues d'or de la fontaine. La petite sorcière descendit, et un mage au teint jaunâtre, le visage lugubre, entra dans la cabine.
« Bonjour, Arthur !»
dit-il d'une voix sépulcrale, tandis que l'ascenseur recommençait à descendre.
« On ne vous voit pas souvent par ici. »«
Bonjour, Morose. Une affaire urgente, » répondit M. Wesley qui se balançait sur ses talons et jetait à Harry des regards inquiets.
« Ah oui, »
dit Morose en observant Harry s'enciller.
« Bien sûr. »
Harry était trop absorbé par ses émotions pour s'intéresser à Morose. Mais son regard implacable n'était pas de nature à le réconforter.
« Département des mystères, »
annonça la voix féminine sans rien ajouter.
« Vite, Harry !»
dit M. Wesley alors que les portes s'ouvraient dans un grincement. Ils se précipitèrent dans un couloir très différent de ceux des étages supérieurs. Les murs étaient nus et il n'y avait ni fenêtre ni porte à part celle noire et lisse qu'on apercevait tout au fond. Harry crut qu'ils allaient passer par là, mais M. Wesley le saisit par le bras et l'entraîna vers la gauche où une ouverture donnait accès à une volée de marches.
« C'est en bas, tout en bas !»
dit M. Wesley d'une voix haletante en descendant l'escalier 4 à 4.
« L'ascenseur ne va même pas jusque-là. Pourquoi ont-ils voulu faire ça ici, jeune ?»
Parvenus au bas des marches, ils coururent le long d'un nouveau couloir très semblable à celui qui menait au cachot de Rogue à Poudlard, avec des torches allumées fixées au mur de pierre brute. Ils franchirent enfin de lourdes portes en bois pourvues de verrous et de serrures.
« Salle d'audience, numéro 10. Je crois que nous y sommes presque, oui. »
M. Wesley s'immobilisa devant une porte sinistre dotée d'une énorme serrure de fer et s'effondra contre le mur en se tenant le flanc.
« Vas-y » haleta-t-il, le pouce tendu vers la porte. « Entre !»« Vous ne venez pas avec ?»«
Non, 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 non,
non, j'ai pas le droit. Bonne chance !»
Harry sentit son cœur remonter dans sa gorge et battre à tout rompre contre sa pomme d'Adam. Il déglutit avec difficulté, tourna la lourde poignée de fer et entra dans la salle d'audience.